Vous écoutez
RMC.
RMC Jeux Olympiques Paris 2024.
J-100.
Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous entendez RMC, à l'heure olympique, ce matin, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, les villes accueillant des compétitions se préparent et mettent déjà les décorations en place. Un jeune entre la vie et la mort ce matin à Bourges après une nouvelle affaire de refus d'obtempérer dont le nombre tend à la baisse selon des derniers chiffres officiels. Et puis lendemain de victoire pour Paris en foot, Paris qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions après sa remontada 4-1 à Barcelone.
Et puis notez mon invité à 8h30 dans le face-à-face, ce sera Jordan Bardella, président du RN et tête de liste aux européennes. À J-100, les villes qui accueillent les JO se préparent.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Le son est donné, là, clairement.
J'aime beaucoup ce petit jingle, je dois vous le dire.
Alors, il n'y a pas que Paris qui se prépare à 100 jours de la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi les autres villes qui vont accueillir des compétitions. Châteauroux, Marseille et Lille, Amélie Lachat.
Dans les gymnases de Lille, les amateurs de basket en parlent à chaque entraînement.
On est en plein championnat et les jeunes ne rêvent que de ça.
Rabah Boudersa est président de Lille Basket et dans son club, tous ont hâte de voir leur idole jouer dans leur ville.
Victor Wembanyama, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Aller voir en vrai, c'est quelque chose de spectaculaire. Voilà, ils rêvent un peu.
À Marseille aussi, on rêve JO, en particulier chez les commerçants qui ont hâte de voir l'événement débuter. Marie-Pierre Cartier est présidente de l'association Commerce Positif.
On est tous dans les starting block. On est tous impatients d'avoir tant de joie dans la ville. C'est l'accueil chaleureux du Marseillais qui va parler très fièrement de sa ville.
Une effervescence qu'on commence aussi à ressentir à Châteauroux où se dérouleront les épreuves de tir. Et à cette occasion, le maire de la ville, Gilles Averrousse, habille les rues aux couleurs des Jeux.
On aura une flamme lumineuse devant la gare en arrivant. Beaucoup d'aménagements festifs. Un ciel lumineux sur la rue de la Poste qui est notre rue commerciale principale. C'est un peu comme à Noël. Mais pour les Jeux Olympiques.
Et la mairie ne s'arrête pas là puisqu'un concours est organisé pour gagner des places pour la cérémonie d'ouverture.
Alors des places, il y en a à gagner ce matin, en cette journée spéciale sur RMC. Et il y en a 250 000 qui seront mises en vente à partir de 10h ce matin avec la règle du premier arrivé, premier servi. C'est soudainement devenu concret, hein, les JO depuis hier avec l'allumage de la flamme olympique qui, ça y est, sillonne la Grèce. Ça va durer 10 jours, elle est encore en Péloponnèse aujourd'hui. Son arrivée est prévue le 8 mai prochain à Marseille. 8h03 sur RMC. Un jeune de 22 ans, donc entre la vie et la mort à Bourges, après un refus d'obtempérer. C'était lundi soir. Ce jeune et son passager ont refusé de s'arrêter face à la police municipale qui a fait usage de gaz lacrymogène faisant chuter les deux jeunes. D'autres affaires de refus d'obtempérer à Pau, à Schiltigheim ces derniers jours. Romain Houg pour RMC ce matin. Le ministère de l'Intérieur vient d'ailleurs de publier les derniers chiffres sur ces affaires de refus d'obtempérer qui font la une des journaux, mais qui sont plutôt stables.
Oui, après avoir augmenté chaque année entre 2016 et 2021, 27 300 refus d'obtempérer lors de cette seule année, leur nombre a baissé pour atteindre un peu plus de 23 000 en 2023, en 8 ans, c'est donc même en légère baisse. Mais l'enseignement de cette étude, c'est surtout que ces refus d'obtempérer sont de plus en plus dangereux aujourd'hui. Dans un cas sur cinq, ils mettent en péril la vie ou l'intégrité d'autres personnes. Et un profil type des contrevenants se dégage. Ce sont très souvent des jeunes, les trois quarts au moins de 30 ans. Il s'agit quasi exclusivement d'hommes de nationalité française pour l'immense majorité d'entre eux. Enfin, il faut noter que rapporté au nombre d'habitants, il y a autant de refus d'obtempérer dans les grandes villes que dans les petites. C'est par exemple en moyenne 4 pour 10 000 habitants à Paris, exactement la même proportion que dans les communes de 5 à 10 000 habitants.
Je vous signale ces deux projets d'attentat déjoués. On l'apprend ce matin, c'est une information de BFM TV, deux projets d'assassinat qui ont été déjoués, trois suspects. Trois jeunes ont été mis en examen. Parmi eux, il y a un jeune de 17 ans, un mineur de 17 ans, placé en détention provisoire. Donc pour ces deux projets d'assassinat qui ont été déjoués. La campagne des européennes, une conférence nationaliste interdite hier à Bruxelles. Éric Zemmour, qui devait y participer, dénonce une dictature. Vous n'êtes pas les bienvenus, voilà ce qu'a dit le maire de la capitale belge. Jordan Bardella, tête de liste RN, est l'invité de RMC ce matin, 8h30, lui qui fait la course en tête dans les derniers sondages, largement même le camp présidentiel se demande d'ailleurs comment remonter la pente, Sébastien Krebs.
Oui, et déjà beaucoup se sont fait une raison. Il s'agit maintenant de limiter la casse. Jordan Bardella est installé en tête. Le RN a un socle en béton, constate amèrement un cadre du camp présidentiel. En interne, des interrogations émergent sur la stratégie. Des arguments anti-RN qui ne prennent plus. Une candidate, Valérie Ayé, sous pression. Et des annonces qui tardent sur son programme et sa liste. La campagne n'a pas commencé, répète son entourage, qui reste persuadé que tout va se jouer dans la dernière ligne droite. Les têtes de l'exécutif sont attendues au front. Emmanuel Macron pour un grand discours sur l'Europe. Gabriel Attal, lui, va multiplier dans les prochains jours les annonces sur le thème de l'autorité, être intransigeant sur l'ordre. Voilà la consigne qu'il a passée lui-même aux parlementaires. De quoi envoyer quelques messages aux électeurs tentés par le RN.
C'est un débat qui agite toute l'Europe en ce moment, la gestion des drogues pour lutter contre le trafic. L'Allemagne est devenue au début du mois le troisième pays européen à légaliser le cannabis. Des villes sont candidates pour essayer en France, comme Bègle, Strasbourg. Et alors aux Pays-Bas, la maire d'Amsterdam, qui est une plaque tournante de l'économie de la drogue, veut réguler le marché des drogues dures comme la cocaïne, en expliquant que c'est un débat économique, Marion Gauthier.
Le monopole est laissé aux criminels, souligne la maire d'Amsterdam, qui imagine la cocaïne distribuée en pharmacie ou dans un cadre médical.
La question n'est pas d'approuver ou non les drogues. Certaines drogues sont dangereuses et il faut réduire leur consommation. Mais je remarque aussi que la façon dont nous procédons ne porte pas ses fruits.
La prohibition ne marche pas, abonde l'addictologue Jean-Pierre Coutron.
L'idée n'est pas de libéraliser ces produits, mais de les mettre, puisqu'il y a une demande et qu'elle ne disparaîtra pas, de les mettre dans un circuit qui serait plus facile à contrôler avec, un certain nombre de mesures de précaution, des politiques d'accompagnement des consommations.
Mais il faut craindre la souplesse des trafics en nuance. Michel Gandillon de l'Observatoire des criminalités internationales.
L'État va poser un cadre des prix, des taxes, et effectivement, ça donnera toujours une marge de manœuvre pour les trafiquants pour proposer des produits moins chers, moins taxés, plus purs, plus dangereux. Et puis à côté de ça, il y aura des reports sur d'autres substances.
Le chercheur rappelle que la cocaïne a été vendue en pharmacie au début du XXe siècle, puis interdite pour des raisons de santé publique.
Alors, lendemain de soirée d'euphorie pour le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en battant le Barça 4-1 hier soir. La remontada dans le bon sens, cette fois avec le début de Dembélé, Vitinha, un doublé de Mbappé. Arthur Perrault, vous êtes toujours à Barcelone ce matin en direct pour RMC. Dites-nous comment les Parisiens ont fêté ça.
Avec une fête que le PSG a voulu savourer dès le coup de sifflet final, tout le club de la capitale se dirige vers le parcage visiteur. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, participe à la communion. Les joueurs enchaînent les chants et les danses lancées par les supporters. 3000 fans avaient fait le déplacement jusqu'à Barcelone. Ils sont restés jusqu'à environ 1h du matin dans le stade de Montjuïc pour profiter de cet instant, ce moment de bonheur qu'ils méritent selon Kylian Mbappé. Ils ont récupéré leur bus à 1h30 avant un nouveau périple, 14 heures de route pour rallier Paris. Pas de comité d'accueil cette fois à l'aéroport du Bourget pour le retour des joueurs. Les demi-finalistes de la Ligue des Champions ont le droit à 2 jours de repos avant le retour du championnat. Un choc prévu dimanche à 21h au Parc des Princes face à Lyon.
Et la demi-finale du PSG en Ligue des Champions, ce sera dans 2 semaines. On n'a pas la date exacte encore, 30 avril ou 1er mai, contre les Allemands de Dortmund qui se sont qualifiés hier soir en éliminant l'Atlético. Alors il y en a qui se délectent ce matin, ce sont les Madrilènes, la presse madrilène notamment, qui met Kylian Mbappé à la une ce matin. Kylian Mbappé a tué le Barça, voilà ce que dit la presse madrilène.
Ils l'attendent, c'est normal.
C'est ça.
C'est le classico qui a déjà commencé ce matin.
Un très beau tease. C'était donc le journal de Quentin Vinet, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va rester sur le match, évidemment. Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire spectaculaire hier des Parisiens. Kylian Mbappé et ses coéquipiers, peuvent-ils aller au bout? C'est Daniel Riolo qui est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Journaliste RMC Sport, RMC, qui arrive dans ce studio. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC. C'est le matin, c'est le soir, c'est Daniel Riolo, 24-24 sur RMC. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, figure du foot sur RMC évidemment avec l'After Foot. Le PSG qualifié hier soir après avoir retourné le match. On peut le dire comme ça quand même, Daniel, non?
Oui. Non, parce que retourner, il n'y avait pas non plus. On n'était pas dans une situation absolument catastrophique à ce moment-là. Il faut dire que les faits de jeu ont tourné favorablement avec le carton rouge pour le défenseur du Barça. Et c'est à ce moment-là que le match a tourné et que le PSG, en fait, a su en profiter. On va dire que pour une fois, le PSG s'est offert le droit au bonheur. Les campagnes européennes du Paris Saint-Germain ces dernières années se terminaient toujours de façon négative, avec cette espèce d'impression que mentalement, il ne pouvait qu'échouer parce qu'il n'était jamais à la hauteur de l'événement. Là, non seulement les faits de jeu ont été favorables, mais ce qu'on avait vu tout au long de la saison, à savoir que un véritable état d'esprit collectif avait été mis en place, on l'a vu sur un gros match. Parce que finalement, dans l'histoire récente du PSG, des gros matchs en Coupe d'Europe, vous savez, je crois, je sais même pas si on arrivait à plus des doigts d'une main. Il y avait le Barça en 2021, pareil, le match aller, le match retour avait été un peu plus compliqué. Il y avait le Bayern, pareil, la même année d'ailleurs, où il y avait eu ce formidable match dans la neige là-bas et une victoire. Mais peu de matchs où cette équipe avait réellement montré une force collective, une âme. Là, hier, c'est ce qui s'est passé et ok, très bien, il y a eu le carton rouge. On va quand même dire que le PSG a su le provoquer. Et derrière, les événements ont été retournés par le Paris Saint-Germain.
C'est pas juste oui. de la chance, quoi.
Non, bah
on
non,
est d'accord.
Non, non.
On en dit un mot de ce carton rouge, mais...
C'est quelque chose qui a été provoqué. Alors en Espagne, ce matin, effectivement, j'ai vu la presse, on conteste cette décision. Alors là, franchement, voilà. Je trouve que c'est très gonflé et de mauvaise foi. Parce que vous avez un attaquant qui part vers le but, un défenseur qui fait faute. Il y a absolument rien de scandaleux à ce carton rouge. Et alors, je parlais des mauvais matchs du Paris Saint-Germain d'un point de vue mental quand il ne savait pas gérer. On aurait pu également parler du nombre de fois où les décisions d'arbitre ont tourné défavorablement. Pour une fois que ça tourne du bon côté, on va le prendre et on va être très heureux de ce qui s'est passé.
Victoire 4-1, donc, dans 15 jours demi-finale contre les Allemands, Borussia Dortmund. Est-ce qu'il y a des raisons d'y croire ?
C'est une vraie surprise de les retrouver parce qu'ils étaient déjà avec le PSG dans la phase de poule. Dans cette phase de poule, ça s'était bien passé puisque le PSG avait gagné 2-0 au Parc des Princes, puis fait un partout là-bas. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'au début de la saison. Mais le PSG est peut-être également meilleur. On verra. Enfin, je pense qu'il faut que tout le monde reste très calme. Et qu'on, surtout, on ne se dise pas, c'est fait. Parce que, effectivement, en demi-finale, on s'attend quand même à une équipe d'un tout autre niveau. On ne s'attend pas à jouer le Borussia Dortmund. Donc, j'ai peur que tout le monde se dise, c'est fait, on va passer. Je pense que ça doit passer. Parce que maintenant, avoir fait ça pour buter contre Dortmund, ce serait absolument terrible comme déception. À mon sens, un PSG qui reste serein avec des joueurs qui jouent au niveau auquel ils ont joué hier, c'est un PSG qui va être en
finale. Et on touche plus à l'équipe là, l'équipe qu'on a vue hier soir, il faut pas la toucher parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre l'aller et le retour.
Pitié qu'on arrête les expériences. C'est bon, il y en a assez eu cette année, j'ai pas toujours compris à quoi elles avaient servi. Hier, on a eu une équipe normale,
aboutie, sereine, solide.
Qu'on aille avec celle-là maintenant.
Kylian Mbappé, il était à la fois décisif et pas flambant.
Exactement, et un peu mieux quand même que les dernières semaines où il était carrément mauvais. Vraiment, depuis le match 8e retour contre la Real Sociedad où il a mis 2 buts, on avait un Mbappé médiocre. Là, on a eu un Mbappé moyen. Un Mbappé moyen, ça veut dire 2 buts. Je pense que c'est quand même très positif.
Déjà très bien, honnêtement. Merci Daniel.
Merci.
D'être venu ce matin dans le studio, que vous retrouvez ce soir évidemment, ce soir dans l'After Foot sur RMC, il est 8h17.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Car ce matin, Charles, ça va.
Oui.
Charles, ça va bien. On vient d'en parler, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions.
Et on vient d'en parler avec Daniel Riolo.
Daniel, 4 à 1 contre Barcelone, c'est la dans ton cul tada. Alors, notre Charles, il est passé par toutes les émotions hier. Barcelone a ouvert le score, donc il a mordu un coussin en faisant « Pourquoi moi ?» Et puis Paris est revenu et Charles a souri, Charles a dansé, Charles s'est mis nu en criant sur son balcon. Ce matin, il a hurlé dans les couloirs de RMC en faisant l'avion. Ouais, Paris, Paris. Il prenait des inconnus dans ses bras en chantant Marseillais.
Non.
Malheureusement, Charles ne connaît pas encore les visages de nos nouveaux actionnaires marseillais de CFA-CGM. Donc Charles, la nouvelle direction m'a annoncé que votre prématinale commencera à 2h du mat à l'année prochaine. Enfin, admettez, ça valait le coup, non ? Ça valait le coup, on se fait une belle soirée. Alors, tant qu'on parle de sport, hier, on allumait la flamme olympique à Olympie. Olympie en Grèce, le berceau de l'Olympia. Vous savez, j'y suis allé. C'est très émouvant. Hein. On peut voir des fresques publicitaires pour Coca-Cola du 4e siècle. Très beau. C'est Nikos Aliagas qui a présenté cette cérémonie. Nikos, il sait faire durer le suspense. Hein. Allumer une flamme, normalement, ça prend 20 secondes. Mais lui, il aime quand ça traîne. Et oui, car nous sommes à Olympie. Olympie, la ville berceau des Jeux. Là où nos saints patrons, les athlètes antiques, ont les premiers allumé cette flamme. Flamme virevoltante, flamme ondoyante, flamme des années 80, flamme jusqu'au bout des saints patrons. Une flamme qui sera l'étincelle d'une traînée de poudre qui allumera nos âmes et dont la chaleur refroidira les coups de chaud des cœurs glacés des dirigeants du monde qui diront non à la guerre pour faire vibrer un grand oui à l'Olympisme. Et toi, t'es là, tu regardes ta montre. Au bout de 2 heures, tu t'aperçois qu'en fait, il s'est passé 5 minutes. Merci Nikos pour ce beau moment.
Alors, à cause des attaques de l'Iran contre Israël, le Quai d'Orsay appelle les Français à s'abstenir de se rendre en Iran, en Israël, au Liban dans les territoires palestiniens.
Eh ben super. Tout pour gâcher les vacances de printemps. Et je fais quoi, moi, avec mes billets pour mon road trip Téhéran, Ramallah, Rafah?
Super road trip.
Bah ouais. Non, c'est dommage que ce soit dangereux, l'Iran, parce que c'est beau. Ouais. Hein. Alors, après, si on aime les coins pas dangereux, il y a Charleville-Mézières, il y a Bar-le-Duc. Alors, c'est moins beau, mais on peut pas tout avoir. Remarquez, là-bas aussi, on risque de mourir, mais d'ennui, quoi. Enfin, ceci dit, c'est dangereux, l'Iran. En fait, comment vous dire à quel point c'est dangereux? C'est aussi dangereux que de raconter une blague de blonde à une réunion d'Europe Écologie Les Verts. Vous voyez? Vous allez voir Sandrine. Non, mais essayez.
C'est pas possible.
Sandrine, Marie, vous savez pourquoi une blonde, elle change la couche de son bébé qu'une fois par mois? Parce que sur la boîte, il y a marqué jusqu'à 15 kilos. Et là, Sandrine. Sandrine et Marie, elles vous regardent. Au bûcher! Au bûcher! Suce à l'humoriste piteux! Alors donc, on en parlait, l'Iran a envoyé 170 drones et 110 missiles sur Israël ce week-end, qui ont mis 8 heures à arriver sur le territoire hébreu. 8 heures! Ça paraît long, hein? Ça devait être des missiles de 1937 qu'ils ont démarré avec une manivelle.
3, 2, 1, on envoie les missiles!
C'est pas de la haute technologie. Le dôme de fer a détruit 99% des projectiles, mais la région reste peu sûre. Pour le tourisme, heureusement qu'on n'est pas en guerre avec Ibiza ou Dubaï. Heureusement que Poutine n'a pas décidé d'envahir Disneyland. Ah, salut, c'est Mickey! On est envahi! Au secours! Envoyez-nous des munitions! Oh mon Dieu! C'est la petite sirène! C'est la petite sirène d'alerte aérienne! Non, ça va faire des vacances moches. Ça va faire des vacances nazes.
Arnaud, aujourd'hui débute le procès de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels.
Oui, Stormy Daniels, c'est donc le nom... Enfin, c'est le pseudonyme d'une actrice pornographique, parce que les vrais noms sont toujours moins glamour. Hein. C'est toujours des Jacqueline Mouchardin qui deviennent des Jessica Sweeties. Alors, Donald Trump a eu des relations sexuelles avec elle alors qu'il était marié depuis moins d'un an. Il venait tout juste de s'acheter Melania. C'est élégant. Et surtout, il a payé Stormy Daniels via sa société en maquillant les comptes. Alors, j'ai relu la Constitution américaine, car je travaille. La Constitution n'interdit pas d'élire quelqu'un qui est en prison. Vous imaginez, Trump réélu et en prison en 2024?
Matricule 69XX69, on vous attend au parloir, vous avez votre rendez-vous du G7 avec Emmanuel Macron et Xi Jinping qui commence, et après vous aurez droit à 5 minutes de téléphone pour discuter avec le patron de la BCE. Et vous en profitez pas pour appeler un téléphone rose comme la dernière fois. Hein.
Alors c'est un procès avec de très lourdes conséquences économiques pour Donald Trump. Alors avec Victor Joannin, qui est juste à côté de moi, on a travaillé toute la nuit sur ce sujet pour vous l'expliquer de la façon la plus claire possible ce matin. On est professionnel. On a regardé tous les films de Stormy Daniels.
Bien sûr,
tous.
Bien sûr, obligé.
Opération Tropical Stormy, Slutty School Girl 1, Slutty School Girl 2, Slutty School Girl 4, qui a été galère parce qu'on n'avait pas vu le 3, Miami Beaches 3, Da Vagina Code, Revenge of the Dildo, tout. Alors, on comprend maintenant pourquoi Donald Trump a voulu séduire Stormy Daniels, mais on comprend aussi pourquoi il a acheté son silence, parce qu'on voit bien à travers ces films que les performances de Donald Trump ne peuvent pas égaler celles de Donovan Maxi Bowles, de Julio Scrotum et de Steve Zob, tous excellents dans leur rôle de plombier et de livreur de pizza. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Donald Trump a cherché à acheter le silence de Stormy Daniels. Et vous pouvez compter sur Victor et moi pour être à la pointe de l'actu judiciaire et économique. Mais oui, allez, à demain.
À demain. À demain, nos critiques cinéma et économie. Il est l'heure de... Mais ouais, il est l'heure de faire gagner et de faire gagner...
Des places.
Des places, mais on sonne, on appelle. Et c'est Anthony qui répond. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, félicitations.
Merci.
C'est vous qui avez gagné ce matin. Anthony, vous êtes où?
Ah, c'est super. À Antibes.
À Antibes. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous choisissez? Vous connaissez le principe, vous avez gagné, mais vous pouvez choisir les épreuves. Alors vous avez gagné soit deux places pour la finale femme de handball, avec, on l'espère, les Bleus, évidemment. Ça, c'est le 10 août au stade Pierre-Mauroy à Lille. Soit deux places pour assister aux finales d'athlétisme. Ça, c'est le 3 août à Paris. On choisit quoi, Anthony?
Handball.
Du coup, je vais choisir l'athlétisme plutôt.
Ouais, moi aussi, j'aurais choisi athlé. Athlé à Paris, le 3
super,
août. Félicitations, Anthony. On est très heureux de vous offrir ces places. Et vous le savez, tous les jours, il est 8h24, toutes les heures aujourd'hui. À 24, on vous offre deux places, les 100 meilleures places qu'on a gardées. Vous l'avez, Amélie, je sens. 24, 2024.
À 24,
vous envoyez donc Paris 2024 par SMS au 7-32-16. 8h24, dans un instant, la politique. Mon invité, c'est Jordan Bardella, le président du RN, tête de liste pour le Rassemblement National aux Européennes. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio. Merci pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement National et vous êtes la tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes. Rien ne vous arrête. Les sondages vous donnent très largement en tête. Vous faites même le double des intentions de vote de celle qui est juste derrière vous, mais enfin loin derrière, donc Valérie Hayé qui arrive deuxième à 16% elle des intentions de vote, quand vous êtes à 32,5 selon les principaux instituts.
Ce qui ne fait pas le vote le jour J.
Sondage. Si vous dites ça tout de suite, c'est que vous avez un peu la trouille, quoi. Que c'est de la superstition.
Vous savez, quand vous êtes candidat à une grande élection comme les européennes, vous avez toujours peur que les gens n'aillent pas voter le jour J. Parce que les sondages, c'est bien beau, mais ça ne fait pas la réalité du vote. Et je dis aux Français, ne vous dites pas que c'est gagné d'avance. Et qu'en l'occurrence, chaque Français qui restera chez lui le 9 juin prochain fera un assez beau cadeau à Emmanuel Macron.
Pourquoi? Parce que c'est vous face à Emmanuel Macron?
Écoutez, ça fait maintenant depuis 2017 qu'il y a une recomposition du paysage politique autour de ces deux grands blocs que nous incarnons respectivement avec Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen et le Rassemblement National de l'autre. Et je pense que ces élections, ce sont des élections de mi-mandat. C'est-à-dire que le parti politique qui sortira en tête de ces élections européennes sera chargé de préparer l'alternance. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne cesse de dire aux Français, je ne cesserai de leur dire d'ici au 9 juin, l'Union européenne décide d'énormément de choses dans votre vie, du prix de l'électricité jusqu'à la submersion migratoire que vous subissez. Et rester chez vous, c'est évidemment renforcer l'Europe de Macron.
C'est des élections européennes ou c'est des élections nationales pour vous?
C'est les deux, je ne vais pas se mentir. La réalité, c'est qu'une grande partie de ce que subissent les Français se décide à Bruxelles. Il y a quelques semaines encore, nous parlions d'une crise agricole majeure sans précédent. La décroissance agricole, l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes qui sont exigées par nos propres agriculteurs en France, c'est décidé à Bruxelles. Les migrants qui sont répartis dans les communes françaises, c'est décidé à Bruxelles. Donc, si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera
vous
de se soucier de vous.
Vous ne vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles?
Ah bon?
Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je ne sais même pas ce que vous... Quoi vous faites, vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café... Enfin, je ne sais pas...
Vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction ici?
Bah, je me mets à bosser, je peux vous dire qu'en plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200.
Madame, pardon. Ils ont changé quoi, les 3200 amendements de Manon Aubry, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, mais qui consistent à déplacer des virgules?
C'est déplacer des virgules?
Oui, les amendements de Madame Aubry consistent à déplacer des virgules. On peut faire du score. Hein. J'ai l'un des meilleurs taux de présence de l'ensemble des eurodéputés français, avec 94% d'assiduité au vote. Il ne faut pas confondre les rôles. Il y a, au sein de ce Parlement européen, comme au sein de la démocratie française, des gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont dans l'opposition. Moi, j'ai fait depuis 5 ans le travail que m'a été confié par la démocratie française et par les électeurs français. J'ai combattu le pacte vert et le Green Deal qui imposent des normes à nos chefs d'entreprise qui nuisent aujourd'hui à leur compétitivité. J'ai combattu encore la semaine dernière à Bruxelles le pacte pour les migrations qui prévoit la répartition obligatoire de migrants dans les communes françaises sous la contrainte de punitions financières pour les communes et pour les États qui refuseraient d'accueillir des migrants. Donc, j'ai fait précisément mon rôle et peut-être
vous
que si...
Vous avez fait le job.
Et pardon d'être un peu cru, mais si je suis donné en tête de ces élections européennes, peut-être que les Français trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. Et moi, je dis aux Français, ceux qui ont des comptes à rendre, ce sont ceux qui ont au pouvoir. Mais croyez-moi, je me bats tous les jours pour que le mouvement que je préside et que les idées que je représente accèdent au pouvoir et qu'un jour, nous ayons des comptes à rendre devant le peuple français. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche, qu'ils fassent partie de cette France du travail comme... d'une France qui subit les difficultés au quotidien, fait le constat du délitement généralisé du pays. Et pour beaucoup, nous apparaissons aujourd'hui, non pas seulement comme un recours, mais comme une véritable espérance.
On va revenir évidemment sur les questions à la fois de sécurité, de diplomatie, d'économie. Je voudrais vous interroger sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles, une conférence qui devait se tenir avec Éric Zemmour, avec Nigel Farage et avec Viktor Orban, qui n'a pas pu avoir lieu. Elle a été interrompue par la police, officiellement pour des questions de sécurité. C'est le maire, le bourgmestre, comme on dit là-bas, de la commune bruxelloise de Saint-Jos, qui a envoyé la police, qui a pris un arrêté d'interdiction. Il a dit que c'était à la fois pour garantir la sécurité publique et puis il a ajouté « l'extrême droite n'est pas la bienvenue ». Est-ce que vous comprenez que parfois, pour des raisons de sécurité, ce genre de rassemblement soit annulé ?
Ce n'est pas pour des raisons de sécurité. Je veux dire, parmi les personnes qui ont été empêchées de s'exprimer, il y avait un chef d'État en exercice, et notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui est Premier ministre de Hongrie, qui, par définition, l'un des chefs d'État de l'Union européenne. Donc, il y a aujourd'hui, en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, une gauche sectaire, totalitaire, antidémocratique.
Totalitaire
qui, quand on empêche des responsables politiques démocratiquement élus, en l'occurrence un chef d'État, de s'exprimer, je trouve ça parfaitement inadmissible. Donc moi, j'apporte évidemment mon total soutien à M. Orban comme à l'ensemble des intervenants. Éric Zemmour a été empêché de s'exprimer. Je ne suis pas dans le même mouvement politique qu'Éric Zemmour, ça ne vous aura pas échappé. Il est candidat contre moi dans ces élections européennes, mais il doit pouvoir s'exprimer et il a le droit de pouvoir tenir meeting. Je vais vous dire, le sectarisme et la violence, nous, on ne fait que la subir. Et je pense aujourd'hui que ces comportements sectaires et groupusculaires d'une partie de la gauche nuisent au bon fonctionnement du débat démocratique. Et ces élections européennes, c'est aussi un combat pour la liberté d'expression et pour la démocratie.
Je précise d'ailleurs que le chef du gouvernement belge, Alexander De Croo, a jugé inacceptable la décision du maire de cette partie de Bruxelles.
Il a eu raison.
Le Premier ministre britannique également a qualifié la décision d'extrêmement inquiétante pour la liberté d'expression. Donc c'est effectivement pas une question de bord politique, mais une question de liberté d'expression. Alors vous avez dit d'ailleurs... que vous étiez adversaire. Si on revient quand même sur les propos de Marion Maréchal, qui est donc la personne qui représente le mouvement d'Éric Zemmour dans ces européennes, elle vous a lancé un appel hier. Je pense que tu entends, elle vous tutoie dans cette vidéo, je pense que tu entends Jordan sans cesse sur le terrain, sur les réseaux sociaux, nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus et à concentrer notre opposition et notre énergie contre nos adversaires communs, qui sont en particulier la gauche et les macronistes. Elle appelle à une forme d'union. Qu'est-ce que vous répondez ?
Mais moi, je pense que l'union fait la France, qu'en plus de faire la force. Et je travaille précisément dans ces élections européennes au rassemblement de tous ceux qui veulent que la France reste encore la France. Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement National, d'aller chez Éric Zemmour, et aujourd'hui de dire chez Éric Zemmour, en fait, il faut l'alliance avec le Rassemblement National. Donc moi, je veux bien. Mais je pense que le temps de la dispersion des voix, le temps des aventures personnelles, ce temps est derrière nous. Parce que nous menons précisément une course contre le temps. L'identité française est aujourd'hui attaquée, menacée contesté constamment. Et je pense que quand on est un électeur patriote aujourd'hui, on ne peut plus aller voter et disperser ses voix sur des listes qui font 5 ou 6%. Et précisément, nous avons besoin, nous, au Rassemblement National, avec tous les amoureux de la France qui
vous
nous rejoignent,
de, vous rejoindre
de constituer la dynamique la plus forte possible. Je ne demande pas de rejoindre, parce qu'elle a quitté le Rassemblement National. Bon, et il se trouve qu'elle a, sur sa liste, beaucoup de gens qui ont quitté le Rassemblement National, dont certains, d'ailleurs, ont été élus grâce au Rassemblement National, sont partis sans démissionner de leur mandat. Je dis une chose très simple. Marion Maréchal, Éric Zemmour ou François-Xavier Bellamy ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents qui se présentent à côté de moi dans le cadre de ces élections européennes. Mais je pense que le 9 juin prochain, la sanction infligée à Emmanuel Macron doit être la plus lourde possible.
Quelle est la différence idéologique avec quelqu'un comme Marion Maréchal aujourd'hui ? Je veux dire, au-delà des histoires de parti, de aller parti, pas parti.
C'est elle qui est partie, donc il faut lui poser la question. Je pense que beaucoup d'électeurs d'Éric Zemmour, de l'élection présidentielle, ont vocation à travailler à nos côtés. En tout cas, moi, je leur tends la main. Je leur dis, vous êtes des amoureux de la France. La France est aujourd'hui en danger. Venez avec nous. Il y a toujours des différences de forme. Il peut toujours y avoir des différences sur le fond. Mais c'est pas le sujet. Il faudrait leur demander. Ils sont candidats aujourd'hui à la tête d'une liste qui est donnée entre 5 et 6%. Je suis à la tête d'un mouvement qui est plus qu'un mouvement politique, qui est donné à 32%. Par conséquent, je le dis, la sanction infligée à Emmanuel Macron le 9 juin doit être la plus lourde possible, et j'aurais préféré qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal, plutôt que de dépenser leur énergie à vouloir faire 5 ou 6% dans une élection européenne, plutôt qu'ils aident les patriotes les mieux placés à l'emporter non seulement en 2024, mais aussi en 2027. Et les voix qui se porteront sur la liste d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal seront des voix perdues. Et je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui attend avec impatience cette dispersion des voix et qui joue dessus. C'est Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron, vous en faites vraiment un match, hein, et des élections de mi-mandat.
Les Français,
ça veut dire
en
que
vous
l'avez d'ailleurs dit, hein, vous dites si nous arrivons très largement en tête, nous espérons qu'Emmanuel Macron acceptera de dissoudre l'Assemblée. Pour vous, ça vaudrait élection quasi nationale.
Si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que les élections européennes, c'est l'unique occasion, c'est la seule élection nationale de mi-mandat. Il y a des élections locales, des élections municipales dans 2 ans. Mais c'est la seule élection nationale du quinquennat qui doit donc permettre aux Français de s'exprimer sur la politique du gouvernement, de faire entendre leur colère à Emmanuel Macron et par conséquent de désigner le mouvement politique qui sera chargé de préparer l'alternance. Quand on a 10 à 15 points d'écart, quand on est au pouvoir par rapport, ça ne s'est jamais vu, hein, au parti, premier parti d'opposition, il y a un problème, non pas de légitimité, mais il y a un problème de crédibilité pour la majorité présidentielle. Par conséquent, je pense, et c'est parfaitement sain, c'est prévu par nos institutions, que le président de la République n'aura pas d'autre solution que d'en revenir aux urnes.
Je voudrais qu'on parle sécurité, je voudrais qu'on parle économie, sécurité d'abord, l'ordre, c'est la promesse de Gabriel Attal. Il sera demain en déplacement sur le terrain, vraisemblablement à Viry-Châtillon, pour faire des annonces. Il a promis des mesures, je cite, extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société et d'un rétablissement de l'ordre, de l'ordre partout, dans la rue, dans les classes, dans les familles.
À 54 jours des élections européennes, tout le monde parle comme nous. C'est génial. Il faudrait qu'il y ait des élections, en fait, plus souvent. Parce que Gabriel Attal, depuis 2017, ils ont fait l'exact contraire des postures de fermeté qu'il adopte à 2 mois d'une élection européenne où le Rassemblement national
ce genre de mots, il les a tenus dès son discours de politique.
Pas du tout. Moi, je me souviens. Pas du tout. Oui, il y a un mois. Bon, moi, je me souviens d'un Gabriel Attal quand il était ministre des Comptes publics qui expliquait que jamais il ne laisserait faire le lien entre l'immigration, évidemment l'insécurité, et notamment le terrorisme. Il expliquait qu'il n'y avait pas de lien sur France Info, vos confrères de France Info, entre l'immigration et le terrorisme. Moi, je regarde les faits. Je regarde le bilan du gouvernement. L'année 2023 a été une année de tous les records en matière à la fois d'insécurité et d'immigration. En 2023, tous les indicateurs de délinquance et de criminalité sont en hausse. Et je le dis, et les Français le sentent bien tous les jours.
Et pour vous, il y a un signe. C'est vraiment une conséquence immédiate de la question de l'immigration. Vous liez les deux de manière.
Évidemment. Je veux dire, il faudrait être dans le déni pour ne pas faire le lien aujourd'hui entre l'incapacité à maîtriser les flux migratoires et la montée de la violence sur notre territoire. On parlait tout à l'heure du Premier ministre hongrois. Vous baladez la rue dans Budapest quand vous êtes une femme le soir que vous sortez de soirée. Il n'y a pas d'immigration à Budapest, il n'y a pas d'insécurité. Et il y a parfois, en une seule nuit, pas une seule agression ou fait de délinquance ou de criminalité qui est signalée au poste de police.
Et vous voulez un pouvoir comme celui-là,
je vous donne
un pouvoir très autoritaire.
Non, mais je vous donne un exemple très simple sur l'immigration. 40% des vols de voitures sont le fait d'étrangers. 38% des cambriolages. 31% des vols violents sont le fait d'étrangers. Je ne dis pas de Français issus de l'immigration. Ce sont les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur. Okay. 40% des infractions perpétrées dans les transports en commun sont le fait d'étrangers en provenance d'Afrique. Donc, ceux qui ne veulent plus faire le lien entre l'immigration et l'insécurité, je ne peux plus rien pour eux. Je dis une chose. D'abord, il faut sortir de cette mécanique du déni qui vise systématiquement à expliquer qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence depuis 15 ans dans notre société, que c'est toujours la faute de RICS qui ont mal tourné ou des difficultés sociales. Je pense que face à l'insécurité, il faut d'abord un état d'esprit. La fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté.
C'est le projet de loi, le projet de loi. Je voudrais justement vous interroger. Allez-y, dites-nous ce que vous proposez. Je voudrais vous interroger aussi sur ce que propose précisément le ministère de la Justice.
Dissuader, sanctionner, responsabiliser.
Comment on dit ça ?
Dissuader par des peines beaucoup plus dures et par des peines beaucoup plus fermes. Je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, vous avez vu tous les jours ces faits dramatiques où les Français sont livrés à des prédateurs. On voit des vieilles dames sur leur lit d'hôpital. Qui sont violés, agressés par des clandestins sous
OQTF. Tous les jours, je veux dire.
C'est lundi.
Bien trop et,
ça, c'est lundi.
Et
le mardi,
une,
ce sont des scènes
trop,
de razzia à la foire du trône, où des types qui se comportent en prédateurs arrivent dans la foire du trône, agressent, volent, pillent, lynchent des citoyens au sol. Quand ça n'est pas des viols, quand ça n'est pas des agressions, ce sont des émeutes en juillet dernier qui ont coûté près d'1 million d'euros aux contribuables et qui restent précisément. Pardon, 1 milliard, et qui reste précisément impuni par les services de l'État. Donc je pense que l'atteinte à l'intégrité physique.
Là, je peux pas vous. C'est-à-dire, sur le constat, je crois que tristement tout le monde est d'accord sur les chiffres que vous venez de donner, notamment de la délinquance et des homicides. Mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est que précisément sur les émeutes, la justice s'est mise en ordre de marche. C'est-à-dire, sur le moment, il y a eu un certain nombre de comparutions immédiates, il y a eu des peines qui ont été prononcées. Et depuis, le ministère de la Justice a donc commencé à révéler cette semaine le projet de loi, le contenu du projet de loi, je cite, relatif à la responsabilité parentale et à la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. Et l'idée, c'est de renforcer les sanctions, à la fois sur les jeunes, mais aussi sur les parents. Il y a quand même, ça vous, bon, je veux dire, vous l'avez vu, vous l'avez regardé, vous ne pouvez pas dire que c'est impuni.
Oui, vous avez vu ce qu'il y a dans le contenu de loi.
Oui.
On nous propose donc des stages de responsabilité pour les parents et des amendes. On demande aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance.
Jusqu'à 45 000 euros d'amende.
D'accord, payez donc avec l'argent des allocations familiales. C'est donc la double peine pour les Français. Moi, je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Parce qu'il n'y a aucune raison que des familles françaises qui font preuve de carences éducatives manifestes, qui sont totalement déresponsabilisées, puissent bénéficier des fruits de la solidarité nationale. Par conséquent, le Rassemblement national au pouvoir suspendra les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Deuxièmement, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, l'atteinte aux personnes, à la personne physique, doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Et je pense qu'il ne doit plus y avoir de possibilité d'aménager des peines pour des atteintes à l'intégrité physique. Vous vous en prenez à l'intégrité physique d'un citoyen ou d'une citoyenne française, vous dormez en prison. Il faut que cette mesure et cette échelle des peines soient dissuasives. Or, aujourd'hui, la récidive vient du fait, d'une part, que les peines ne sont pas suffisamment dissuasives, et deuxièmement, qu'on multiplie systématiquement les alternatives à l'incarcération.
Plusieurs questions là-dessus. Ce que vous dites sur les allocations, vous dites d'abord de parents délinquants ou de parents récidivistes? Vous avez dit les deux.
Évidemment,
non, dès le premier acte de délinquance.
Si vous voulez une sucette dans un restaurant, c'est dans un
donc vous allez mettre quand même un seuil.
C'est okay. Pas pareil que si vous commettez un braquage ou que si vous participez au trafic
de
drogue.
Comment vous allez distinguer, Jordan Bardella, les parents démissionnaires, comme vous dites, et les parents débordés? Vous l'avez évidemment vu, il y a un certain nombre de ces jeunes qui évoluaient dans des familles monoparentales. La plupart du temps, c'est quand même les mères. Les pères ont disparu dans la nature, ne payent rien, ne payent plus plus de pension. Elle se retrouve toute seule à devoir parfois faire tourner le foyer, à partir très tôt le matin pour aller bosser. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en leur enlevant les allocs, ça va être
pire? Je vais vous dire, moi j'ai grandi dans une cité HLM, à Saint-Denis. Et j'ai grandi avec beaucoup de familles issues de l'immigration comme la mienne, qui ne finissent pas délinquants. Et j'ai grandi aussi seul avec ma mère dans ce HLM. Et précisément, je suis convaincu, et j'ai toujours eu cette conviction, que ça n'est pas parce qu'on vient d'un quartier difficile, dans un contexte parfois monoparental, c'est vrai, qu'on finit délinquant, criminel, qu'on agresse, qu'on vole et qu'on se livre à des razzias à la foire du trône ou qu'on agresse des grand-mères de 75 ans pour leur voler 20 euros après qu'elles aient été les retirer au distributeur. Donc, cette excuse des difficultés sociales, de la pauvreté pour justifier la délinquance, je le refuse. C'est pas tant pis. Je veux dire, on est responsable de ces enfants. Et quand des mineurs sont connus pour 5, 10, 15, 20, parfois 30 faits de délinquance, alors je pense qu'il faut taper au portefeuille. Et l'ensemble de ce bouclier judiciaire que nous souhaitons renforcer a vocation aussi à être dissuatif. Sur les mineurs, je crois
plus
également...
Plus d'excuses de minorité?
Non. Je crois
aucune. C'est en fait un mineur qui a 14, 15, 16 ans, il sera jugé comme s'il avait 18.
Je souhaite généraliser le principe des centres éducatifs fermés, qui n'existent aujourd'hui qu'en nombre dérisoire. Il y a une cinquantaine de centres éducatifs fermés avec une dizaine de mineurs à l'intérieur. Je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, c'est un peu sur le modèle des pays d'Europe du Nord, des peines très courtes et immédiates. Vous commettez,
par exemple,
exactement.
Ce sont des peines de prison parfois de quelques jours simplement. C'est l'inverse de la doctrine. J'explique bien pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent. En France, on est parti du principe qu'une peine de prison de moins d'un an n'était en réalité pas appliquée. Donc, en fait, si vous prenez moins d'un an de prison, vous n'y allez pas. En Hollande, ils ont décidé exactement l'inverse, c'est-à-dire que dès les petites infractions, c'est 2-3 jours de prison, mais on y va tout de suite.
C'est exactement ça. C'est exactement ce que nous souhaitons mettre en œuvre. En France, ça marche en Hollande et ils ont des taux de récidive qui sont bien meilleurs que les taux français.
Qui sont bien moindres. Enfin, je veux dire, vous voulez dire, ils sont meilleurs sur la
récidive. Le taux de récidive est moindre, évidemment, que les résultats français. Donc, dissuader avec des peines qui soient beaucoup plus dures, sans la possibilité d'aménagement de peine pour les atteintes à l'intégrité physique, premièrement. Deuxièmement, on sanctionne par le rétablissement des peines planchers et la généralisation des centres éducatifs fermés. Et enfin, on responsabilise par la suppression des allocations familiales.
Je vous repose la question parce que j'ai pas...
Se faire agresser, se faire traîner dans la rue, même si physiquement vous êtes remis 2-3 jours après, c'est une blessure et un traumatisme psychologique qui reste à vie. Or, aujourd'hui, beaucoup de victimes ont le sentiment que la justice est trop souvent du côté des délinquants et des criminels et pas assez du côté de ceux qui subissent
la sécurité. Parce que j'ai pas très bien compris.
Je vous en prie.
Vous faites sauter l'excuse de minorité.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a plus de différence entre la manière de juger...
Attendez. La peine, elle est individualisée. Donc, il y a toujours une différence. Encore une fois, vous avez 14 ans, vous volez une sucette au supermarché. C'est pas pareil que si vous en avez 16 et que vous en êtes à votre troisième interpellation pour une agression ou pour un harcèlement à l'école. Donc, il y a toujours une individualisation de la peine. Mais sur les grands principes que nous souhaitons instaurer dans le droit français, je vous l'ai dit, la fin, évidemment, des remises automatiques de peine, la fin des aménagements de peine pour les atteintes à l'intégrité physique. Pareil, vous touchez à un policier, vous dormez en prison. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution que les mesures privatives de liberté pour des atteintes aujourd'hui aux personnes qui sont en nombre considérable dans notre société, qui traduisent l'ensauvagement de la France. Et je vous rappelle également qu'il y a 1000 agressions par jour dans notre pays.
Vous disiez que vous aviez grandi dans un HLM. Est-ce que vous estimez qu'il faut revoir tous les 2-3 ans les critères et éventuellement faire sortir ceux qui ne toucheraient plus, qui ne conviendraient plus aux critères?
Ah, je pense que quand vous avez un casier judiciaire long comme le bras, vous ne devriez pas pouvoir bénéficier.
Donc pour vous, c'est même pas une question économique.
D'un HLM. Non, mais c'est une question de principe, madame. Le HLM, c'est quoi? Le
HLM. Casier judiciaire, pas de
HLM. Non. Le HLM, c'est une aide sociale. C'est une aide sociale qui est destinée à des familles françaises.
S'il y a un casier judiciaire, il n'y a plus de HLM.
Non. Deux choses. Les HLM seront réservés d'une part aux familles françaises avec l'instauration de la priorité nationale. Et deuxièmement, si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas bénéficier d'un HLM. Le HLM est une aide sociale. Vous n'avez aucune raison de bénéficier des fruits de la solidarité nationale et de la collectivité quand vous êtes un délinquant ou un criminel.
Quand vous dites famille française, c'est nationalité française?
Bien sûr. Nationalité française. Je suis extrêmement clair. Vous savez que nous souhaitons, dès notre arrivée au pouvoir, organiser un référendum sur l'immigration pour instauré dans la Constitution française, tout le bouclier juridique, politique et administratif pour se protéger de l'immigration massive. Et je propose également, Marine Le Pen l'instauration de la priorité nationale au logement, pour être extrêmement clair, les HLM seront donnés aux familles françaises, c'est-à-dire celles qui ont la carte d'identité française, évidemment, sans aucune autre distinction. Je vous rappelle qu'il y a 31% d'après l'INSEE des immigrés qui sont aujourd'hui en HLM, et on le sait, dans les logements sociaux, notamment dans les banlieues, sous le poids de décisions politiques d'une partie de la gauche, s'est instaurée une véritable préférence étrangère.
Jordan Bardella, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement National, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.